Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Muriel Pénicaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour ce grand oral à mes côtés aujourd'hui, pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour, bonjour. Marion, bienvenue. Bonjour. Et Adrien Gindre de TF1 LCI.
Bonjour à tous, bonjour la ministre.
Dans notre rubrique, la question en plus, c'est Béatrice Clic de Force Ouvrière qui vous interpellera, Muriel Pénicaud, sur la question de l'égalité salariale femmes-hommes. Et puis le grand jury est bien sûr une émission interactive. Vous pouvez toujours réagir en direct sur les réseaux sociaux. Hashtag le grand jury. Et Marie-Pierre Haddad viendra en fin d'émission et bien les relayer à la ministre du Travail. Alors Muriel Pénicaud, les lapsus sont, dit-on, révélateurs. Celui-ci, par exemple, le fut-il.
C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon.
C'était mardi, lors de votre présentation de la réforme des indemnités chômage. Vous nous direz certainement que votre langue a fourché, mais les opposants à ce texte vous ont déjà pris au mot. La précarité sera, selon les syndicats, le résultat de cette réforme des allocations chômage, quand vous, vous en défendez le bien fondé pour stimuler le marché de l'emploi et faire baisser le chômage, qui, il est vrai, a entamé sa décrue depuis 2 ans. Vous dites flexi-sécurité, les syndicats vous répliquent flexibilité sans sécurité, y compris les organisations les plus réformistes comme la CFDT. Alors, Muriel Pénicaud, avec cette réforme par décret, ne tirez-vous pas un trait définitif sur le dialogue social? N'est-ce pas contradictoire avec les aspirations exprimées des semaines durant, hier encore, par les Gilets jaunes? Nous l'évoquerons longuement, bien sûr, dans la première partie de cette émission. Vous portez là un texte d'importance, puisque c'est la première grande réforme de cet acte 2 du quinquennat Macron. C'est aussi un enjeu plus personnel, puisque votre nom a été cité comme Premier ministre de remplacement si Édouard Philippe décidait de voguer vers d'autres horizons parisiens. Par exemple, nous l'évoquerons, l'aborderons dans la seconde partie de ce grand jury. Mais d'abord, une première question de Marion Mourgue, Muriel Pénicaud, sur l'actualité qui va toucher tous les Français cette semaine, la canicule.
Madame la ministre, nous rentrons dans cet épisode de canicule un peu inédit au mois de juin. Est-ce que vous appelez les employeurs à faire preuve de compréhension sur les horaires de travail et peut-être aussi est-on dans la mesure de faire jouer son droit de retrait quand on est salarié?
Alors, la ministre des Solidarités et de la Santé a lancé un grand plan de prévention pour que tout le monde soit mobilisé pour lutter contre la canicule et surtout ne pas en avoir tous les risques. Et évidemment, sur le plan du travail, je fais de même dans mon domaine, les employeurs ont des obligations et on est en train de les rappeler fortement. On va suivre ça de près. Ça veut dire quoi? Adapter les horaires en fonction de la chaleur, hydratation et puis aussi les équipements. Parce qu'en prévention, beaucoup peut être fait par les équipements aussi. Donc ça, on s'y emploie ces jours-ci fortement.
Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises sont prêtes pour ce type de canicule? Vous parlez des équipements. Est-ce qu'on a la garantie que les équipements sont à disposition?
Alors, c'est un problème plus général. Je pense qu'on n'est pas assez bon en France sur la prévention en matière de santé, en matière de risque. C'est d'ailleurs une concertation que nous avons commencé avec les partenaires sociaux. Mais là, à beaucoup plus court terme, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles. Et donc, on va le rappeler, ça dépend beaucoup des secteurs. Il y a des équipements par branche. Et puis, encore une fois, les horaires, l'hydratation, ça compte beaucoup. Et on va être attentif en particulier aux bâtiments, puisque c'est probablement que là qu'il y a le plus de risques.
Mais est-ce que vous appelez, Muriel Pénicaud, aujourd'hui les chefs d'entreprise à faire preuve de compréhension plus, davantage que d'habitude sur les horaires de travail, sur la tenue de travail, des choses
voir
très concrètes?
Alors,
je fais plus que les appeler. Un, je les appelle, et deux, je leur rappelle qu'ils ont des obligations à la matière. Donc non, ça c'est carré, c'est leur responsabilité. La santé des personnes qui travaillent, quand elles sont sur le lieu de travail, c'est la responsabilité des employeurs. Donc effectivement, ils doivent prendre les mesures qu'il faut, adapter les horaires, adapter les équipements, et permettre que tout le monde reparte en
vous
bonne santé.
Vous savez, très concrètement, par exemple, sur la tenue de travail, les shorts, les bermudas, bien dans certaines conventions, ne sont pas autorisés. Est-ce que vous pensez qu'exceptionnellement, ça peut être le cas?
C'est une question de sécurité. Mm-hmm. Il y a des secteurs où ça n'est pas possible pour des questions de sécurité. Et je pense que tous les employeurs ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. La canicule commence. Ça fait plusieurs semaines qu'on y travaille. Donc je pense que tout le monde sera sur le pont.
Mais est-ce que vous anticipez une baisse d'activité, forcément, économique, pour les entreprises dans les jours à venir?
Les épisodes de canicule sur un été, c'est quelques jours. Et donc la prévention doit être pour tout l'été. Mais les épisodes qui peuvent endommager, j'allais dire, le business, Vous savez, la santé des hommes passe avant tout. Hein.
Donc, alors moi, justement, est-ce qu'il faut fermer certaines entreprises ou quand il n'y a pas d'équipement en climatisation, est-ce que ça peut être compréhensible dans ces jours particuliers de fermer son entreprise et de déclencher du chômage technique peut-être parce que la canicule est présente?
Oui, alors ça, c'est quand même une entreprise qui n'a pas prévu qu'il puisse y avoir de la chaleur et qui est un atelier où la chaleur arrive, c'est qu'elle n'a pas fait son travail de prévention. Mm-hmm. Puisqu'on doit garantir toute l'année, pour le froid et pour le chaud, des conditions de travail décentes. Simplement, on va suivre ça de près sur le terrain, parce que les principes sont clairs, la tolérance sera zéro, mais il faut le suivre sur le terrain pour prendre les mesures les plus rapides possibles si besoin.
Alors, on en vient aux allocations chômage, à la réforme que vous avez présentée cette semaine des indemnités chômage. Hein, les syndicats sont vent debout, ils parlent d'une réforme punitive, et vous avez donc fait ce lapsus mardi sur une réforme pour la précarité. C'est vrai que c'est le mot qui est repris en boucle par les syndicats aujourd'hui. Que leur répondez-vous quand finalement ils vous disent, ben voilà, vous avez compris, vous, avec ce lapsus, eh bien, ce qui était le reproche principal qui vous était fait?
D'abord, le lapsus, il est révélateur de quelque chose. Je suis humaine, je ne suis pas un robot. Et comme tout le monde, ça peut m'arriver de faire un lapsus. Mais sur le fond, pourquoi on fait cette réforme? On pourrait dire, le chômage a commencé à baisser. Ça fait 2 ans. Qui baisse. On est passé de 9,7 à 8,7% de taux de chômage. C'est le taux de chômage le plus bas depuis 10 ans. Mais nous, on considère que ça ne suffit pas du tout. Il faut aller plus loin dans la lutte contre le chômage et plus loin dans la lutte contre la précarité. Parce que la précarité, elle a explosé. Et nous, on n'est pas en guerre contre les chômeurs. On est en guerre contre cette précarité qui a explosé. 9 embauches sur 10 aujourd'hui, elles sont faites en CDD très court, en intérim. Mais comment on peut vivre avec un horizon de vie qui ne dépasse pas la journée ou la semaine? Comment on trouve un logement? Comment on organise sa vie? Et donc, il y a à la fois trop de chômage, il faut continuer à le baisser.
Parce que l'assurance chômage était trop favorable aux chômeurs?
Non, il y a trop de chômage et il y a trop de précarité. Donc, c'est les deux combats de cette réforme. Il faut actionner plusieurs leviers. Donc, un levier qui est la responsabilisation des entreprises pour qu'elles arrêtent de proposer que des contrats archi-courts. Franchement, les autres pays ne le font pas. Des pays qui marchent très bien économiquement, c'est pas une fatalité. Et puis que les règles d'indemnisation soient adaptées et un accompagnement comme on n'a jamais fait.
Alors,
moyens pour les chômeurs vont être inédits, on n'a jamais autant accompagné.
On va en parler, mais on va écouter tout de suite Laurent Berger qui était au micro d'Elisabeth Martichoux, c'était mercredi, donc au lendemain de la présentation de cette réforme.
Nous venons de vivre depuis le mois de novembre l'émergence d'une colère chez ceux qui ont le sentiment d'être délaissés et qui ont le sentiment que les politiques se font sans jamais regarder leur situation réelle. Et cette réforme, elle va toucher 100% des demandeurs d'emploi indemnisés qui vont tous perdre à l'indemnisation.
Adrien Gindre.
Muriel Pénicaud. La CFDT, c'est le syndicat a priori le plus réformiste chez les travailleurs. Si c'est une bonne réforme, celle que vous avez présentée cette semaine, comment vous expliquez de vous être mis tous les syndicats, y compris la CFDT, à dos?
D'abord, je voudrais dire que ça fait 1 an qu'on discute. La loi a prévu que les partenaires sociaux définissent les règles de l'assurance chômage. Et s'ils n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à conclure, à ce moment-là, que l'État prenne ses responsabilités. Les partenaires sociaux ont eu 4 mois pour négocier. Ils ont demandé un 5e mois, ils ont eu 5 mois. Ils n'ont pas réussi à aboutir. Donc, est-ce que ça serait responsable de notre part de dire, on laisse les choses en l'état? Ça veut dire qu'on n'accélère pas la baisse du chômage qui est si attendue par tout le monde, parce qu'il n'y a rien de pire dans la vie que d'être au chômage, pour le pouvoir d'achat, pour la dignité, pour le lien social. Et donc, un, on continue cette lutte, et deux, cette explosion de la précarité, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à la résoudre.
Mais une bonne réforme, ce n'est pas une réforme qui est acceptée et qui est comprise.
Eh bien, je pense que sur le terrain, ce n'est pas toujours la même chose. Jeudi, j'étais à Villeurbanne, dans une agence Pôle emploi, la 22e que je visite. J'ai rencontré des demandeurs d'emploi, des conseillers Pôle emploi et des entreprises. Et quand on parle des règles, c'est des règles qui sont très pragmatiques, qui correspondent à la réalité du terrain aujourd'hui. Bien, je peux vous dire que l'écho était plutôt très encourageant. Pourquoi? Parce que les employeurs, ils reconnaissent que cette précarité absolue, elle est quand même un peu organisée. Il y a des entreprises qui n'ont pas le choix, mais quand c'est 9 emplois sur 10, 9 emplois sur 10, ça veut dire que 7 embauches sur 10, c'est des contrats d'un mois ou moins.
Vous nous parlez de CDD. Donc, là, on parle pour l'instant d'allocation chômage, où ça sera plus compliqué d'y accéder. Et Marion Bong a une question.
L'allocation chômage, juste pour répondre à votre question. Quel est le sujet?
Attendez. Marion Bong vous pose la question.
Quand vous avez présenté cette réforme, vous avez expliqué que dans le meilleur des cas, il y aurait 200 000 chômeurs en moins sur 3 ans. Les syndicats vous reprochent donc une réforme qui est purement budgétaire, c'est-à-dire qu'on raye des chômeurs des listes, mais finalement, on n'arrive pas à enclencher une vraie baisse du chômage.
Alors qu'est-ce attendez, que 200-250 000 de nos concitoyens trouvent un emploi demain,
c'est évidemment
ça, c'est,
une
ça,
bonne
c'est
nouvelle.
Mais ce n'est pas une bonne nombre... nouvelle, c'est extrêmement important. Notre responsabilité, c'est de permettre à nos concitoyens d'avoir la chance de vivre dignement par le
Sauf
travail.
Qu'une réforme bah,
une réforme
sur
qui
6 millions
fait 250
chômeurs,
000 personnes
pas...
qui trouvent un emploi, c'est ça dont on parle, qui trouvent un emploi. Ben, moi, je m'excuse, ça vaut la peine de la faire.
Mais pourquoi
et on peut
pas
aller plus loin. Une attente là-dessus.
Mais pourquoi durcir ces conditions d'accès? Alors, puisque, regardez, pour être très concret, pour être très clair, en 2016, il y avait une réforme qui avait été acceptée par tous les partenaires sociaux, 800 millions d'économies. L'allocation chômage, l'UNEDIC, devait être excédentaire, en tous les cas à l'équilibre la semaine prochaine, puis excédentaire. Et là, vous annoncez une réforme pour économiser plus de 3 milliards sur 3 ans. Était-ce vraiment urgent alors que ce système-là fonctionnait plutôt bien au final?
Ah oui, il a permis la précarisation complète et ça, vous trouvez que ça va bien. Il y a 35 milliards de dettes, ça veut dire que si demain, on a une crise, on aura du mal à réinjecter ce qu'il faut parce qu'il y a déjà beaucoup de dettes. On ne peut pas dire que le statu quo est tenable. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que les règles d'indemnisation, ce n'est pas un but en soi. Et ça doit s'adapter à la réalité du terrain. Ce n'est pas une réforme budgétaire, c'est une réforme pour l'emploi. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'indemnisation? Qu'est-ce qu'on change comme indemnisation? On change une situation qui existe aujourd'hui où on peut gagner plus en entrant au chômage qu'en travaillant. Ça, je m'excuse, ça s'appelle une réforme de bon sens. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui travaille un mois sur deux, une fois et demie le SMIC, il gagne 880 euros net par mois. Alors qu'il entre au chômage aujourd'hui, il gagne 1200 euros.
Mais Pénico, c'est alors pas ce demain, que vous disent les syndicats. Ils vous disent que c'est une réforme hors sol. Exemple, par exemple, eh bien, d'une caissière, eh bien, elle va devoir, pour commencer à accumuler des droits, il faudra qu'elle travaille 6 mois et non un mois. C'est pas rien. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous attaquez, c'est ce que vous dit Laurent Berger, eh bien, aux plus précaires, aux plus faibles du monde du travail. Et aux jeunes également, parce que les étudiants vont devoir travailler davantage pour éventuellement avoir une allocation chômage l'été. On vous écoute.
Je réponds sur deux points. Le premier, c'est que cette règle d'avoir seulement 4 mois de travail pour, dans les 28 derniers mois pour avoir droit à assurance chômage, les partenaires sociaux l'ont mis en place au moment de la crise de 2009. Et ils avaient raison de le faire. Quand il y a la crise, qu'il n'y a plus d'emploi, il faut une indemnisation qui surtout protège, mais n'est pas forcément incitative à reprendre un emploi. Vous savez, vendredi matin, combien il y avait d'offres d'emploi sur le site de Pôle emploi? Juste une estimation.
Dites-nous.
688 000. Voilà, ça c'est la réalité en permanence de ce qu'on vit.
Mais
on a un marché du travail dynamique.
Oui.
Ça veut dire
que
nos règles...
les chômeurs ne veulent pas aller chercher
non.
ces emplois-là. C'est ça, quelque part, on a une forme de culpabilité
Absolument
dans ce que
pas.
Vous dites là à l'instant.
Non, c'est les règles. Mais les règles sont un peu absurdes. L'autre jour, j'ai rencontré des demandeurs d'emploi qui me disaient « Bah oui, pour l'instant, effectivement, quand je rentre au chômage, je gagne plus qu'en travaillant. » C'est pas logique. D'abord, l'artisan, le salarié qui lui se lève le matin, il comprend pas. Et puis, même les intéressés, ils se disent « Je vais travailler. » Et l'assurance chômage, c'est pour ceux qui travaillent et qui ont un accident de la vie, qui ont perdu leur emploi. C'est fait pour ça, ça a été créé pour ça.
Et avec moins d'allocations, vous êtes convaincu qu'il n'y aura pas plus de précarité?
Il n'y aura pas moins d'allocations, mais elles vont être réparties différemment. Il n'y a aucun mois où on gagnera plus que ce qu'on a gagné quand on travaillait. Par contre, on aura une allocation qui dure plus longtemps. Parce que la même caissière qui est peut-être permittente, elle aura
sur
le droit...
Sur les 6 mois
si
au lieu d'un mois.
Elle aura droit à l'allocation plus longtemps. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, je veux vous dire, je ne connais pas beaucoup de gens, pas beaucoup de femmes, qui veulent être caissières toute leur vie. Le jour, j'étais à Gentilly avec Julien Normandie, le 8 mars, et 400 femmes, et on a parlé des problèmes d'emploi et d'insertion dans la société. Je connais personne qui a envie de faire des horaires très coupés, un travail qui va être souvent précaire et qui est assez mal payé. Donc, le sujet principal, c'est aussi de pouvoir sortir de la situation. Aujourd'hui, c'est une trappe à la précarité. C'est ça, notre système.
Oui, mais vous...
Et celle-là, c'est aussi une trappe à la pauvreté. Demain, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, tout le monde va avoir droit, en novembre, à son droit à la formation. Le Mon Compte Formation, ça arrive en novembre, on pourra se former. Deuxièmement, on aura là un accompagnement beaucoup plus fort. Parce qu'aujourd'hui, on a en moyenne, quand on est demandeur d'emploi, 45 minutes d'entretien dans les 2 premiers mois. Là, il y aura 2 demi-journées, vraiment avec une équipe qui vous aide à faire le point sur votre situation, à trouver un emploi, à vous mettre en contact avec des entreprises, à vous apprendre ce qui vous manque comme savoir-être ou savoir-faire pour y aller. On va faire un accompagnement, comme on dit, inédit. On n'a jamais consacré autant de moyens dans notre pays.
Parce que les gens, ils ne veulent pas rester dans la précarité. Il y aura 250 000 chômeurs après cette réforme qui ne seront plus indemnisés. Qu'est-ce que vous leur répondez? 250 000 chômeurs ne seraient plus indemnisés.
Ils raisonnent comme s'il n'y avait pas de marché de l'emploi. Chaque année, il y a 30 millions d'offres et de contrats qui existent dans notre pays. Mais c'est un marché dynamique. Ce que veulent le demandeur d'emploi, c'est pas simplement l'indemnisation, c'est pouvoir enfin trouver un travail qui est solide, qui est stable. On peut organiser sa vie. Comment on peut organiser sa vie? Et donc, dans les leviers d'ailleurs qu'on va faire sur le plan, parce que c'est une réforme de terrain, on va travailler sur tous les terrains pour voir aussi les problèmes de garde d'enfants, les problèmes de transport. L'autre jour, j'étais à Marseille, dans les quartiers nord. Qu'est-ce que disaient les femmes du quartier nord? Elles disaient, moi, j'en ai du travail. Sauf qu'il n'y a pas de bus entre le quartier nord et le centre-ville. J'ai une heure et demie de transport en commun. Donc moi, je prends le travail. C'est déjà un travail précaire. Je voudrais bien me former pour changer de job, pas faire ça toute ma vie. Et en plus, il faut régler les problèmes de transport. Pour d'autres, c'est la garde d'enfants. C'est tout cet accompagnement qu'on va faire qui va changer la vie. Moi, ce que je souhaite, c'est que les demandeurs d'emploi, ils aient un espoir d'avoir un emploi.
Alors, plus particulièrement sur les cadres, Marion Bourg.
Sur les cadres, vous avez une mesure qui est très spécifique et en même temps, seuls 80 000 cadres seraient visés par cette réforme. Est-ce que là, on n'a pas finalement une stigmatisation d'une partie de la population pour arriver à remplir un peu une case?
Est-ce qu'on est d'accord que l'assurance chômage, c'est un filet de sécurité pour ceux qui en ont besoin? Parce que là, je pense qu'on est d'accord.
Et pour ceux qui cotisent?
Alors, plus de salariés cotisent depuis le 1er janvier 2018. Ceux qui disent qu'ils cotisent, c'est pas vrai.
Qui contribuent,
parce qu'on a supprimé les cotisations d'assurance chômage salarié en 2018 pour augmenter de 2,4% le pouvoir d'achat des salariés. D'ailleurs, ça veut dire qu'au SMIC, c'est à peu près... depuis, on a gagné plus de 1 000 euros par an grâce à cette mesure. Donc, on ne cotise plus. C'est la solidarité, c'est-à-dire le contribuable à travers la CSG et les employeurs. Mais je reviens au sujet.
Oui, sur les
aujourd'hui,
cadres,
on est... On est au plein emploi chez les cadres. On est à 3,8% de taux de chômage. Alors, quand on est à 3,8% de taux de chômage, c'est pas logique que le système ne considère pas que pour d'autres, c'est plus difficile et pour certains, c'est plus facile de trouver un emploi. C'est pour ça qu'on va faire une modulation, c'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, il y aura une baisse de 30% des indemnités pour ceux qui sont encore au chômage. Mais, deux choses, on garde le système le plus protecteur, le plus élevé d'Europe, puisqu'on peut avoir jusqu'à 6 600 euros net par mois quand on est cadre à l'allocation chômage. Donc on garde le système de
protection. Ça touche 0,05% de
80 000 personnes. Vous voyez bien que ce n'est pas budgétaire.
Donc c'est un effort que vous leur demandez, un effort particulier.
C'est un effort. Ouais. Et puis aussi, on colle à la réalité du terrain. Par exemple, moi j'ai exclu qu'on le fasse pour les seniors. Parce que les seniors, pour retrouver un emploi au-dessus de 56-57 ans, franchement, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, on va, avec Jean-Paul Delevoye, avec les partenaires sociaux, discuter sur comment on développe l'emploi des seniors. Donc eux, ils ne seront pas concernés par cette dégressivité. Mais les autres, vous en connaissez tous? Moi, j'en connais. Il y en a pas mal qui m'ont dit bon.
Eric Woerth vient de dire qu'il y a un risque de rupture d'égalité, donc le fait que ce soit anticonstitutionnel de faire la différence entre les cadres et les autres segments de la population en âge de travailler. Est-ce que vous ne craignez pas ce risque-là d'anticonstitutionnel?
Eh bien, écoutez, c'est le Conseil d'État qui le dira quand il aura le projet de décret. Mais je ne le crois pas, puisque c'est la catégorie... parce qu'on a quelque chose qui est juste, puisque c'est en fonction de ce que vous gagnez. En clair, ça ne concernera que les plus hauts revenus qui gagnaient plus de 4 500 euros brut par mois.
Mais c'est pour faire un exemple,
10%
Pénico,
des salariés.
C'est pour dire, vous voyez, on fait contribuer les plus riches dans la population.
Moi, j'aime mieux investir des moyens sur l'accompagnement de la caissière dont vous parliez, de l'assistante maternelle. D'ailleurs, on ne change pas le système pour les assistantes maternelles parce que ce sont des personnes précaires. J'aime mieux qu'on mette les moyens de l'assurance chômage sur ces sujets-là et que lorsqu'il y a de l'emploi et qu'on a un haut niveau de revenu, on prenne l'emploi. Voilà.
Et vous ne craignez pas que justement les cadres qui avaient le droit avec ce revenu chômage d'investir dans la création d'une entreprise, donc de participer à la création de l'emploi, soient finalement stoppés dans cette...
Alors là c'est l'inverse parce qu'on crée un nouveau droit, on crée beaucoup de nouveaux droits en cette réforme. Et un des droits, c'est pour tous les salariés, qu'ils soient cadres ou pas, pour tout le monde, qui a un projet de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise ou de reconversion, il y aura le droit à démissionner. Si on a travaillé 5 ans, à démissionner et avoir droit à l'assurance chômage. Donc au contraire, on attend beaucoup de cette réforme en création d'entreprise parce que beaucoup de gens hésitent à franchir le pas en disant le temps de monter en puissance une entreprise, ça prend un certain temps. Et donc, là, il y aura une garantie qui est l'assurance chômage.
Adrien, Muriel Pénicaud, tout ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est pour solde de tout compte, c'est définitif. Il y a des syndicats qui ont prévu de encore se mobiliser la semaine prochaine pour protester contre la réforme que vous avez présentée. Est-ce que vous leur dites, c'est fini, il n'y aura plus de discussion,
non,
ça entrera en vigueur?
Ce qui n'est pas fini, c'est sur les sujets qui sont aussi des freins à l'embauche. Je pense à la garde d'enfants. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas prendre un emploi parce que les horaires ne correspondent pas. Ou alors on vous demande un CDI pour avoir un droit à une place en crèche. Vous faites comment votre période d'essai? Donc, on a des sujets de garde d'enfants, des sujets de transport. Ça ne peut pas se décider à Paris. Parce que quand vous êtes à Carré en Bretagne ou que vous êtes à Marseille,
ce sont des conditions,
c'est pas la même situation.
Sur ce que vous venez d'aller, sur la dégressivité, sur les allocations chômage, est-ce que là, il va y avoir... Là, vous dites, ça sera par décret, il n'y a pas de négociation possible.
Ça fait un an qu'on discute. C'est pas comme si on n'avait pas fait de concertation. On a fait une négociation qui a échoué. 4 mois de concertation. Un jour, l'État doit prendre ses responsabilités. Notre responsabilité, c'est de faire baisser le chômage.
Mais Madame la Ministre, ça veut dire que quel rôle vous voyez aujourd'hui pour les partenaires sociaux? Emmanuel Macron a appelé à la fin du grand débat à plus de dialogue, à moins de verticalité. Est-ce que là, ils ne sont pas exclus, de fait?
Non. Ils ont eu, encore une fois, 5 mois pour négocier. On a discuté avec eux. Ils sont tous sauf exclus. Après, ils n'ont pas réussi à conclure.
Ils ont manqué de responsabilité?
Ils n'ont pas réussi à conclure. Une négociation, ça n'a jamais joué d'avance. Ils n'ont pas réussi à conclure. Par contre, là où on a beaucoup à faire ensemble, c'est sur le terrain. Le Premier ministre a appelé à une mobilisation territoriale et sur tous les territoires, avec les préfets, avec les présidents de région qu'ils souhaitent. On est en train de mettre en place des travaux là-dessus, sur garde d'enfants, transport. Comment on trouve un contrat d'apprentissage quand on est jeune? Ça y est, notre réforme, elle produit des fruits. On a énormément de demandes d'apprentissage en plus. Déjà 7,7% de plus d'apprentis. Mais par contre, il y a des apprentis qui ne trouvent pas. Alors comment on les aide là-dessus? Comment on règle le problème de logement parfois? De transport? C'est vrai, alors, pour c'est les demandeurs d'emploi, c'est vrai pour les transports. Ça, on va le faire avec les partenaires sociaux, alors, sur le terrain.
Vous dites,
le responsabilité,
vous
c'est pas que les
voilà,
règles,
disent,
c'est le terrain.
Et Laurent Berger, le premier, il vous dit, voilà, ça a été fait en dehors de nous, une fois de plus. Et il dit, j'ai les nerfs à la une de Libération. Qu'est-ce que vous lui répondez quand vous voyez ça? J'ai les nerfs, il dit.
Écoutez... Moi, je regrette que les partenaires sociaux n'aient pas réussi.
Ça va leur coller au basket, il dit chez nous.
Je regrette que les partenaires sociaux n'aient pas réussi à conclure leurs négociations. C'est toujours mieux quand les partenaires sociaux décident eux-mêmes des règles.
Mais ils vous disent que vous ne leur avez pas laissé le temps, qu'à un moment donné, ils étaient arrivés à un compromis.
Non, ils
ne
nous ont pas demandé de temps en plus. Ils avaient 4 mois. Ils ont demandé un 5e mois, on a donné le 5e mois. Ils auraient demandé un 6e. On l'aurait fait. Ils ne l'ont pas demandé. Et ils ont dit, on n'y arrivera pas.
Mais
donc, ça, c'est pas vrai. On ne peut pas refaire l'histoire.
Vous arriverez à travailler avec eux sur les prochaines réformes et engager le dialogue.
Tous les jours. On est en train de travailler sur d'autres sujets. On a très bien travaillé sur l'égalité hommes-femmes. On va travailler sur la santé au travail. Il y a une chose formidable qui s'est passée il y a quelques jours, qui est passée inaperçue. Le G7 social. Je réunissais mes collègues ministres du Travail des 7 pays du G7 pour préparer le G7 des chefs d'État. C'est la première fois qu'on a fait un accord avec patronat et syndicats français sur la plateforme qu'on veut porter au plan mondial. Le résultat, c'est que la semaine suivante, à l'Organisation internationale du travail, nous avons pu porter les revendications de la France, qui sont devenues celles du G7, avec les partenaires sociaux, patronats et syndicats mondiaux.
Les partenaires sociaux,
et ça, c'est en même temps.
Noël Pénicaud, qu'il y a une rupture du lien de confiance avec vous, notamment, parce que, dans cette réforme,
ils n'ont pas été associés. Parce qu'ils me disent quand je les vois.
Ils vous disent le contraire de ce qu'ils disent publiquement?
Non, je n'en sais rien, mais je dis juste que ce n'est pas vrai, que le lien de confiance est rompu.
Alors, par exemple.
En tout cas, moi, je ne rompre jamais le lien de confiance, je sais l'importance des syndicats.
Autre point de votre réforme, le bonus-malus, puisque vous avez donc, à partir du 1er janvier, il y aura un bonus-malus d'un point sur la cotisation d'assurance chômage qui sera appliqué pour les entreprises de plus de 11 salariés dans 7 secteurs grands consommateurs de contrats courts et d'intérim, dont l'hébergement, la restauration, mais pas dans tous les secteurs. C'était pourtant, Muriel Pénicaud, une promesse d'Emmanuel Macron. Il avait dit pendant sa campagne, ce sera pour tout le monde. Pourquoi ça ne visera pas tous les secteurs?
Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le bonus-malus? L'idée, c'est qu'il y a des secteurs, des entreprises qui ont fait, si j'ose dire, quasiment une gestion de ressources humaines, un système du système de la précarité. Puisque l'assurance chômage permettait à certains demandeurs d'emploi qui alternent les contrats et le chômage de gagner plus, ils disaient, eux, leur revenu principal, si j'ose dire, va être l'assurance chômage. Et nous, on les appelle comme ça du jour au lendemain. Moi, ça me choque profondément qu'on puisse appeler les gens en disant, vous venez cet après-midi, vous venez demain. Ils ne peuvent pas organiser leur vie, ils ne peuvent rien projeter.
Mais si ça vous choque, pourquoi c'est pas pour tout le monde?
Ça choque. Et alors, je reviens à ça. Et donc, c'est pour ça qu'on fait le bonus-malus. Bonus-malus, ça marche comment? Dans un secteur donné, par exemple l'industrie agroalimentaire ou l'hôtellerie-restauration. Les entreprises qui, elles, essaient de recourir au maximum au CDI ou au CDD long auront un bonus, c'est-à-dire qu'elles paieront moins de cotisations d'assurance chômage comme employeur. Aujourd'hui, c'est 4%, 4,05, ça pourra aller jusqu'à 3. Et inversement, ceux qui abusent, c'est-à-dire qu'ils en font, ils abusent pas en droit, ils abusent en comportement, qui en font trop, eh bien, ils auront une cotisation élevée. Alors, du coup, ça va inciter les entreprises à faire. Alors pourquoi cette
secteur? Non, mais juste, non, mais
on a pris les 7 secteurs
que vous allez faire,
le plus.
Voilà, alors, est-ce que vous allez... Parce que vous dites, on va faire un bilan,
oui.
Et puis si on voit que ça marche, eh bien... On l'étendra, c'est bien ce qu'on a compris. Alors, si c'est le cas, à
d'abord,
ce bilan,
on ne fait pas que le bonus-malus, on fait dans les 7 secteurs qui recourent le plus. Recourent le plus, ça veut dire quoi? C'est des secteurs où, en moyenne, pour 10 salariés, ils ont 15 CDD ou intérimaires. C'est-à-dire qu'ils emploient plus de gens précaires que de gens stables.
Enfin, les syndicats disent que ça concerne 38% des contrats courts.
Oui, ça concerne 38% des contrats courts.
Donc, pas la majorité.
Pour moi, ce n'est pas une bonne gestion, même d'un point de vue d'entreprise. C'est là où il y a des accidents en sécurité du travail, c'est là où il y en a le plus. En termes de qualité, et franchement, socialement, c'est intenable. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pour les autres secteurs, et pour tous les secteurs, on va aussi taxer ce qu'on appelle le CDDU, alors c'est un jargon, c'est le CDD d'usage. C'est des contrats qui ont été mis en place il y a assez longtemps, et qui permettent, dans certains secteurs, d'avoir une dérogation, d'employer les salariés de façon précaire, sans prime de précarité, en renouvelant indéfiniment.
Enfin,
vous savez, c'est quelquefois on voit des gens
qui
ont eu 160 contrats dans la même entreprise.
Avec une taxe de 10 euros.
8 fois sur 10, fois. 8 fois sur 10, c'est la même personne qui est embauchée dans la
mais
même entreprise. Mais c'est
découragement une taxe de 10 euros.
Donc, alors, sur un CDD d'un an, non. Mais notre cible, c'est d'arrêter les contrats extra courts. Et bien sûr, un contrat de 3 heures, 10 euros, ça compte.
Mais vous ne nous avez pas dit.
Et donc,
quand
ça va être dissuasif des contrats excessivement
courts. Quand est-ce qu'on aura le résultat de, eh bien, de cette estimation évaluation?
On aura un bilan dans 2 ans des résultats.
2 ans.
Il faut 2 années d'exercice.
Et après, vous verrez si vous étendez à d'autres domaines. Mais 2 ans, c'est long, Madame Pénicaud. Vous ne pouvez pas faire un bilan plus tôt pour savoir?
Ah non, mais on suivra les résultats à fur et à mesure. Mais il faut quand même.
Au bout d'un an, vous pouvez savoir, non? Au bout d'un an, vous pouvez savoir si ça marche ou pas et éventuellement les.
On aura une première tendance, mais. En fait, on incite, dans cette réforme, on incite à changer les comportements. Et ça ne se fait pas en un jour. Mais par contre, on va suivre de près. Nous, de toute façon, on ne va rien lâcher dans la lutte contre la précarité. Pour moi, c'est un des fléaux de notre marché du travail.
Sur l'intermittence.
Il y a une grosse interrogation dans votre réforme, c'est que ça ne touche pas les intermittents du spectacle, un régime qui est largement déficitaire depuis des années. Alors, est-ce que c'était la crainte qu'il n'y ait pas de grève dans les festivals cet été?
Qu'il y ait des grèves, lapsus.
Qu'il y ait des grèves, vous voyez.
Merci de jouer le club.
Je
me solidarise, c'est gentil.
Un partout, la balle au centre.
Est-ce qu'il y avait cette crainte? Pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout?
Je vous propose de poser la question aux partenaires sociaux, puisque ce régime, c'est les partenaires sociaux qui doivent envoyer un document aux partenaires sociaux spécifiques du régime spécifique d'intermittent du spectacle pour que ça bouge. Donc c'est à eux de prendre la main.
Ah donc vous leur appelez
s'ils le souhaitent.
Alors
non,
pour le coup,
on n'appelle rien du tout. C'est à eux de savoir s'ils veulent le faire ou pas. Ils l'ont pas
et
fait.
Et s'ils veulent pas, vous prendrez la main ou pas pour
non,
le coup
ils ont décidé de pas le faire. Il n'y a pas de raison.
Là, vous prenez la main dans cette réforme parce qu'ils l'ont pas fait. Et
non,
là,
parce que là, nous, on avait envoyé un document de cadrage qui proposait de lutter contre cette précarité, qui proposait de changer les règles. C'est là-dessus qu'ils n'ont pas abouti. Le reste, c'est leur responsabilité. Mais ils le feront peut-être, j'en sais rien. Moi,
et vous ne comptez pas vous y atteler, alors que c'est quand même là où il y a énormément de précarité, vous le
alors,
dites, et
il faut savoir que le secteur a des règles spécifiques qui ont été établies par les partenaires sociaux, et ils ont une sorte de malus généralisé, puisqu'ils payent non pas 4,405, mais 8% de cotisations employeurs d'assurance chômage. Donc d'une certaine façon, ils ont traité quand même ce sujet du bonus-malus avant.
On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de ce grand jury de Muriel Pénicaud. À tout de suite.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de TF1-LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie, Muriel Pénicaud.
On a bien compris, Madame Pénicaud, dans la première partie que vous vouliez beaucoup lutter contre la précarité. J'ai cru voir que Pôle emploi allait recruter 1000 agents pour 3 ans, mais pour 3 ans seulement, c'est-à-dire en CDD. Est-ce que c'est votre manière de lutter contre la précarité?
Alors, d'abord, pourquoi on recrute chez Pôle emploi alors qu'on est dans une trajectoire de baisse des effectifs depuis des années? Parce que nous avons décidé de mettre le paquet sur l'accompagnement. Quand on est demandeur d'emploi et que si vous avez, personne ne s'occupe de vous, vous êtes très vite seul, il y a une perte d'estime de soi, une perte de confiance dans le fait qu'on travaille et qu'on va retrouver un travail. Et lorsqu'on est accompagné très vite, très fort au début, eh bien on s'aperçoit que beaucoup plus de gens retrouvent le travail. C'est l'objet de ce que je suis allée voir à Nice l'autre jour, Pôle emploi, et qu'on va généraliser, qui est un accompagnement précoce, intensif, ce que font bien les pays nordiques d'ailleurs.
Mais on sera accompagné par des personnes
en CDD. Mais on va augmenter, du coup, au lieu de diminuer les effectifs de Pôle emploi, on va augmenter. On va augmenter aussi ceux qui s'occupent des entreprises. Toute entreprise qui cherche, qui n'a pas trouvé au bout de 30 jours, il y a 3,5 millions d'offres déposées par les entreprises chez Pôle emploi chaque année. Au bout de 30 jours, elle aura un contact avec Pôle emploi qui lui dira « Ah, vous n'avez pas trouvé, donc soit votre offre elle n'est pas au point, on vous aide à la mettre au point parce que ça ne correspond pas au marché, soit c'est nous qui n'avons pas fait tout notre boulot et on y va. »
Mais vous ne répondez pas tout à fait, 6 000 agents, ils seront en CDD
Il ne nous faut pas 1 000 personnes, il nous faut 4 000 personnes de plus pour faire tout ça qualitatif. On dégage 4 000 personnes, 3 000 par la baisse du chômage qui ramène plus de gens en face des demandeurs d'emploi, mais aussi de la productivité, notamment sur le numérique, sur le digital. Il y a beaucoup de tâches administratives chez Pôle emploi. Donc ça, c'est et au lieu de diminuer les effectifs, on va du coup pouvoir remettre plus de gens face aux entreprises et face aux demandeurs d'emploi, et on va embaucher 1 000 personnes de plus. Alors, on embauche dans une perspective de 3 ans. Après, Pôle emploi, c'est une grande entreprise publique, une grande agence. Il y a 50 000 personnes, donc à fur et à mesure, ils pourront être intégrés sur des postes permanents.
Donc, ils seront intégrés à terme en CDI, c'est ce que vous leur promettez aujourd'hui.
Ils peuvent, s'ils veulent continuer,
Mais ils seront agents de la fonction publique ou non? Ils ne le seront plus, puisqu'il y aura une réforme qui sera passée par là entre temps.
De toute façon, les agents de Pôle emploi sont de statut privé.
D'accord. Alors, justement, sur les contrats privés, sur la recherche d'emploi, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a d'autres moyens de trouver un emploi que Pôle emploi, puisqu'on le voit sur des sites, pour ne pas les citer ici, très fréquentés par les Français de recherche d'emploi? Est-ce que ça peut être aujourd'hui un substitut à Pôle emploi, ces sites?
Alors, en fait, ce n'est pas un substitut, je pense que c'est une convergence. Aujourd'hui, je vous invite tous à aller sur le site de Pôle emploi. Vous allez regarder ce qui s'appelle l'Emploi Store. L'Emploi Store, il y a 200 applications pour chercher un emploi, pour savoir faire son CV, pour trouver une formation, qui sont faites par des start-up ou d'autres organismes et qui sont embarqués dans l'offre de Pôle emploi. Pôle emploi, c'est un rôle de chef d'orchestre. Il y a une partie principale que Pôle emploi fait, et puis il y a une partie, c'est bien qu'il y ait d'autres acteurs privés et publics qui s'y mettent. Je trouve ça très bien. Et par contre, il faut que ça soit coordonné. Et donc, ça veut dire que le demandeur d'emploi, il va sur l'Emploi Store et il a accès aussi aux offres des uns et des autres.
Mais il faut garder Pôle emploi. On ne peut pas se contenter de
C'est indispensable. Moi, je crois qu'on a une grande agence. À Villeurbanne, c'était la 22e agence que je visitais. Chaque agence que je vois, le niveau d'engagement des gens de Pôle emploi est extraordinaire. Il y a beaucoup d'innovation. On a quelquefois une image qui est dépassée par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Et il y a aussi beaucoup de différenciation sur le terrain, parce que ce n'est pas pareil. Dans une zone, il y a beaucoup de chômage, et l'autre, où les entreprises cherchent désespérément des ressources, parce qu'on est déjà au plein emploi, on a les deux. Et donc, pour ça, il nous faut une grande agence qui est déconcentrée, qui travaille en relation avec les territoires, mais qui permet cette compétence et cette innovation.
C'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Madame la Ministre, je suis Béatrice Clic, secrétaire confédérale Force Ouvrière en charge de l'égalité professionnelle. En matière de rémunération, les écarts salariaux sont encore de 25% en défaveur des femmes. Pour répondre à la nouvelle obligation de résultat, les entreprises doivent publier une note sur la base de l'index égalité. Pouvez-vous nous indiquer le taux d'entreprise de plus de 1000 salariés l'ayant effectivement publié à ce jour? Et comment comptez-vous contraindre les retardataires? Pensez-vous utiliser le recours aux sanctions?
Muriel Pénicaud.
D'abord, je voudrais remercier les partenaires sociaux, une représentante de FO, la CFDT, la CGT, la CFTC, la CGC. Tous ont fortement contribué à cette grande réforme qu'on a fait sur l'égalité salariale. Et le patronat aussi. Ce n'était pas évident. On a mis 4 mois de concertation. Vous voyez que on converge. Et on a fait quoi? On est le premier pays à créer une obligation de résultat pour les entreprises depuis le 1er mars dernier. Et avec un index qui permet de mesurer dans chaque entreprise, qui est public. Donc quand vous voulez postuler dans une entreprise, regardez s'ils sont bons ou nuls en égalité salariale. C'est une bonne indication de modernité s'ils sont bons.
C'est pour les grandes entreprises.
Et donc, pour l'instant, il y a eu une première vague au 1er mars pour les entreprises de plus de 1000 salariés. C'est la question. J'en profite pour dire aux entreprises de plus de 250 salariés, je leur rappelle que pour elles, c'est au 1er septembre. Et pour celles de plus de 50 salariés, au 1er mars de l'année prochaine. Alors, les résultats à jour, on a 1130 entreprises sur les 1240 qui ont 1340 qui sont concernées, qui ont publié leur index. Ça veut dire 82%. Là-dessus, il y en a 15% qui sont en alerte rouge, c'est-à-dire qui ont des résultats vraiment mauvais. Et eux, ils doivent tout de suite agir. Et on en a une toute petite minorité qui sont à 100, qui ont 100 points sur 100. Et donc la grande majorité a du travail à faire, dont 16%.
Il y a des sanctions pour ceux qui ne sont pas du tout les 15% dont vous nous parlez, là, qui sont prévues.
Il y aura de toute façon des sanctions pour ceux qui n'arriveront pas en 3 ans à l'égalité, mais d'ores et déjà pour ceux qui n'ont pas répondu dans les entreprises de plus de 1000 salariés. L'inspection du travail et la direction générale du travail sont en train de les contacter. S'ils ne se conforment pas très vite, ils vont être mis en demeure et ils pourront avoir des sanctions financières, même pour ne pas avoir répondu. On doit aujourd'hui cette transparence.
Les sanctions financières?
Les sanctions peuvent aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Donc c'est ce que je dis souvent aux employeurs, mais plutôt que le donner au trésor public, donnez-le aux femmes, ça sera beaucoup mieux pour votre entreprise et pour,
alors on verra
pour l'égalité salariale.
On passe à une autre actualité, les plans sociaux. Marion Mourgue.
Hier à Belfort, on a assisté à un rassemblement assez large pour soutenir l'emploi à Belfort. Jean-Luc Mélenchon était sur place, il a dénoncé un complot en visant directement Emmanuel Macron quand l'entreprise Alstom avait vendu à General Electric. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? Parce que le terme est fort.
Ouais, enfin, le terme complot n'a franchement pas de sens. Non, la situation aujourd'hui, d'abord, moi, je voudrais dire que notre gouvernement, en particulier Bruno Le Maire, Agnès Pannier, qui s'y rendent souvent, est auprès des salariés et auprès du territoire. Parce que c'est très important, c'est 800 postes sur 1900. Alors, la cause, c'est l'effondrement du marché des turbines à gaz. Mais néanmoins, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plusieurs manières de revitaliser le territoire, de donner un espoir aux gens, d'avoir un avenir pour ce site, en tant que site industriel, et d'avoir un avenir pour chacun. Et donc, il y a beaucoup de travail d'ailleurs fait avec les élus locaux sur le sujet. Et clairement, pour ma part qui me concerne, moi je veillerai à ce que les règles en matière de reconversion, en matière de revitalisation, soient strictement appliquées à l'entreprise General Electric. On travaille main dans la main avec Bruno Le Maire là-dessus.
Comment vous luttez aujourd'hui contre ces plans sociaux? On a l'impression quand même qu'après les européennes, il y a une recrudescence de ces plans et que l'État ne peut rien faire.
Ce que je vais dire, quand on est à Belfort, on s'en fiche, mais il faut savoir qu'on crée plus d'emplois industriels en France depuis 18 mois qu'on en détruit. Et il y a plus d'ouverture et plus de création.
Donc il faut accepter la loi du marché.
Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que moi, c'est exactement ce que je ne dis pas. Quand on est à Belfort, ce qui compte, c'est pouvoir vivre et travailler à Belfort. Donc c'est pour ça que, et reconversion, et revitalisation, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire retrouver d'autres activités, faire venir d'autres investisseurs, ou leur demander de faire une autre activité, est un point si important.
Pénico,
et on ne peut pas dire qu'il y a une avalanche
emplois.
De plans sociaux.
Que c'était 1000 emplois.
Il y a des métiers qui changent.
Voilà, donc il faut accepter.
Non,
parce que
ça
devait être 1000 emplois devaient être créés. 1000 emplois. L'État avait eu cet engagement. Il n'est pas tenu.
Ils ont créé des emplois. D'ailleurs, ils vont payer l'amende qui est prévue, qui va servir pour le site. De toute façon, General Electric avait des obligations. S'ils ne les respectent pas, ils doivent plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais encore plus important, ils vont aussi devoir aider avoir une responsabilité sur le site. Les métiers changent beaucoup. Les marchés changent beaucoup. On ne peut pas éviter qu'il y ait certains secteurs qui souffrent. C'est le cas de la distribution, par exemple.
Et donc,
aujourd'hui.
Il y aura d'autres
en revanche,
d'après les informations que vous avez.
Il y a d'autres opportunités. Donc, oui, on croit à l'avenir industriel de la France. Oui, on croit au site de Belfort. Et oui, on croit qu'on peut faire mieux et qu'il faut tout faire pour le maintien ou la reconversion des salariés.
Et est-ce que vous savez qu'il y aura d'autres plans sociaux dans les semaines et les mois à venir?
Alors, de toute façon, il y en a toute l'année. Mais ce que je dis, c'est qu'on crée plus d'emplois. Et donc, l'important, c'est que quand il y a des plans sociaux, un, qu'ils soient faits dans le respect intégral de la loi, qui est protectrice, pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autre solution, d'une part. D'autre part, que chacun puisse avoir une chance de reconversion. Et troisièmement, si on ferme un site ou une partie de site,
mais
que
vous trouve des activités. Est-ce que c'est ça, faire preuve, Madame Pénicaud, de plus d'humanité que dire aux gens qui peuvent être touchés par des plans sociaux, c'est la vie des entreprises, il y en aura, mais rassurez-vous, on crée de l'emploi ailleurs.
Non, c'est pas ce que je dis. Moi, je dis que Belfort, par exemple, Belfort, c'est une grande ville industrielle. Il y a une tradition.
Vous y êtes allé à Belfort?
Il y a de savoir-faire. Pas récemment là, parce que ça, c'est plutôt Bruno Le Maire qui est en tête sur ces sujets-là. Il y a le savoir-faire industriel, ça vaut quelque chose. Le savoir-faire des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, ça vaut quelque chose. Donc ça, c'est le combat pour qu'on respecte pleinement à la fois les obligations, mais aussi qu'on dessine un avenir.
Mais ce n'est pas à vous d'y aller aussi, sur ce site? Parce que bien évidemment, il va se poser la question du plan de sauvegarde de l'emploi.
Alors, mon équipe est déjà en train de travailler. C'est Bruno Le Maire qui est tête de file sur ces sujets-là.
Mais vous pouvez
pas être deux. Et mon équipe est impliquée, mon équipe y est complètement.
Bon, alors justement, juste une question très concrète sur les contrats aidés. Il y a eu beaucoup de suppression des contrats aidés. Ça a été une grande mesure du début de ce quinquennat qui a été contestée. Et vous avez mis en place des parcours emploi compétences à la place de ces contrats aidés. Combien y en a-t-il aujourd'hui qui sont financés?
Alors aujourd'hui, d'ailleurs, contrairement à l'idée reçue, on n'a jamais supprimé les contrats aidés. Donc, je le redis, mais on les a transformés pour qu'ils soient plus efficaces. Parce que là aussi, c'était de la précarité organisée. Vous savez, quand je voyais certaines collectivités qui faisaient toutes les cantines scolaires en permanence les contrats aidés, et tous les 8 mois on changeait de personne sans jamais aucun espoir d'embauche, on va pas dire que c'est pas un besoin permanent, hein, une cantine scolaire. Donc bon, donc on les a transformés avec là aussi de l'accompagnement. La clé, c'est l'accompagnement et puis de la formation, parce que c'est souvent des emplois d'assez bas niveau de qualification. Les personnes n'avaient pas le droit à la formation.
Alors,
et encore une fois, toutes les 26 millions de Français, à partir du mois de novembre, sur leur appli Mon Compte Formation, ils auront droit à la formation.
À partir de cette application, ça sera quoi, le 15 novembre?
C'est fin novembre pour 26 millions de Français. On aura ces 500 euros par an et on va rattraper tout ce que vous aviez avant
sur ces parcours emploi compétences.
Et sur les parcours emploi compétences, aujourd'hui, on en a 30 000 sur 100 000 budgétés pour l'année. Donc on est dans la, on est complètement en marche de croisière.
Il y en aura combien au total?
C'est 100 000 qui sont prévus.
D'ici la fin du quinquennat?
Non, par an.
Par an. Adrien Jean.
Une question qui va occuper le débat politique à la rentrée, c'est l'immigration, puisqu'un débat va être organisé au Parlement. C'est la promesse du président et du Premier ministre. Il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur a dit que la question des quotas pouvait faire partie du débat. Il n'a pas exclu que cette question puisse se poser sur les quotas de migrants économiques. Est-ce que vous y êtes favorable?
Alors d'abord, il y a deux sujets. Dans l'immigration, il y a les réfugiés, les demandeurs d'asile qui deviennent réfugiés, et les autres migrations.
Sur l'asile, le ministre
dis juste
asile,
parce que j'étais avec Christophe Castaner jeudi dans un centre AFPA de la région parisienne où on fait... AFPA, c'est l'organisme de formation publique de l'État. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent.
Oui,
on était dans un centre de formation dans un programme qu'on cofinance ministère de l'Intérieur et ministère du Travail qui s'appelle HOPE, permet à des réfugiés qui ont été reconnus réfugiés d'apprendre le français, d'apprendre un métier. Sur des métiers en tension, 90% d'embauche. Et je peux vous dire que la force avec laquelle ces réfugiés qui disaient merci à la France et qui vont
mais là,
contribuer au pays.
Qui obtiennent le droit d'asile.
Et là, pour ceux qui obtiennent le demande d'asile, il n'y aura jamais de limitation financière. C'est un droit imprescriptible, c'est le droit d'asile, c'est profond dans notre République.
Et donc,
je voulais dire que l'année dernière, il y en a eu plus de 40 000, on n'en a jamais accueilli autant de demandeurs d'asile en France, et on n'a jamais autant reconnu, et on est en train d'intégrer, et je vais augmenter les budgets pour pouvoir le faire de façon
donc là,
plus large.
Mais ce sont des critères propres à l'asile.
Mais ça, c'est important, parce que c'est pour beaucoup qui viennent,
quotas,
ils viennent en demande d'asile. Après, ça, c'est des débats que doit avoir le Parlement. C'est aussi un sujet européen, parce que je crois que le sujet européen, c'est qu'on ne peut pas avoir des vitesses complètement différentes selon les pays européens. En termes à la fois de protection et d'accueil, il faut aussi des règles du jeu européennes. Et ça, vous l'avez vu, ça fait partie de notre
feuille de route européenne. Mais le
gouvernement
n'aura pas de position dans le débat à la rentrée au Parlement?
Alors, il y aura des positions, mais encore une fois, il faut que le débat ait lieu. Et il y a un débat qui est à la fois européen et à la fois national sur le sujet.
Bon, on n'aura pas en tous les cas de chiffres sur le quota et que vous souhaitez, vous, économique, enfin d'immigration économique.
Non, mais le sujet, c'est qui l'Europe peut accueillir, veut accueillir, et quand on le fait bien.
Question express dans le grand jury tout de suite.
Le grand jury, question express.
Muriel Pénicaud, pour ou contre la légalisation du cannabis?
Alors, pour le cannabis thérapeutique, sous contrôle médical, pour le reste, non à ce stade, mais il y aura un débat parlementaire, un rapport parlementaire. C'est un sujet compliqué.
Mais votre conviction intime, Muriel Pénicaud?
Moi, la seule chose dont je veux être sûre, c'est que ça ne pousse pas des jeunes de 15 ans aux addictions. Ça, c'est la ligne rouge. Et à partir de ça, on peut débattre de tout, mais Marion ça, Monroc, il faut faire attention.
C'est l'urgence du moment, ce débat?
C'est pas le gouvernement qui l'a mis sur la table, mais tous les débats de société
certains
sont bien
acquis. La majorité.
Enfin, c'était pas dans notre feuille de route prioritaire du moment, mais s'il y a débat, il y a débat. On est dans une démocratie, on s'en réjouit tous les jours.
C'est aussi une moyenne de gagner de l'argent sur aujourd'hui. Est-ce que ça serait aussi une perte?
Oui, alors là, ça c'est du... Enfin, je crois que le premier
avec
sujet...
Avec une taxe, vous pouvez aussi gagner de l'argent pour l'État.
Oui, on peut tout faire avec dans cet esprit-là. Non, je crois que le premier sujet, c'est un sujet de santé.
De santé, donc...
Il faut santé,
Bussin,
et notamment chez les jeunes.
Votre collègue. Pour ou contre...
On est d'accord avec Agnès Bussin.
Pour ou contre la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes?
Pour, résolument pour. Je me réjouis que la France, bientôt, pourra ouvrir la PMA à toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou qu'elles soient seules.
Pris en charge par la Sécurité sociale?
Si c'est un droit important qui concerne la vie, oui.
Vous le souhaitez?
La réponse est oui.
La congélation des ovocytes, pour ou contre, ce sera dans la loi bioéthique, normalement?
Alors, je crois qu'aujourd'hui, on a une évolution de la société. on fait les enfants plus tard et puis on peut avoir des problèmes de santé, des raisons. Donc oui, dans des conditions évidemment encadrées, mais le droit à porter la vie, je pense que c'est quelque chose qui est un droit profond. Et donc, sous réserve que ce soit bien encadré, oui.
Pour ou contre, Muriel Pénicaud, la GPA, la gestation pour autrui, ici même Nathalie Loiseau, qui fut votre tête de liste européenne, qui est aujourd'hui eurodéputée, s'était exprimée pour la GPA.
Alors moi, je crois que ce qu'elle a fait, la ministre des Solidarités et de la Santé depuis un an, c'est d'avoir beaucoup de débats avec tous les partenaires, avec tout le monde, les scientifiques, les citoyens, les parlementaires. Les sujets de société, comme ça, il faut toujours que la loi soit accompagne et parfois soit en avance. Est-ce qu'on est mûr aujourd'hui en France sur le sujet de GPA ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il faut faire la PMA vite, bien,
mais
et que ça va déjà faire évoluer les mentalités.
Vous n'êtes pas fermé à la GPA ?
Je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas compromettre la PMA en ayant un débat qui sera tellement plus large qu'on n'arrivera pas à un débat apaisé. Moi, je trouve que c'est formidable.
Il risque d'avoir une rupture d'égalité.
Je pense qu'on peut arriver à la PMA de façon apaisée.
Il risque d'avoir une rupture d'égalité entre hommes et femmes, vous le savez. Le Conseil constitutionnel pourrait se prononcer dans ce sens-là. À ce moment-là, vous nous dites aujourd'hui que vous prenez en considération aussi cette égalité-là, éventuellement.
Moi, je dis que je souhaite le progrès social en la matière, que la première grande étape qu'il faut faire, c'est la PMA. Que ça va changer les choses, ça va changer aussi le regard. Parce qu'il faut aussi que petit à petit, on voit que la filiation, l'amour parental, la génétique, tout ça, c'est pas exactement la même chose. C'est une maturité qu'il faut avoir progressivement.
Sur les gilets jaunes, Brigitte Macron, au micro de Marc-Olivier Fogel cette semaine, a dit qu'elle n'avait pas vu venir cette crise. Et finalement, le gouvernement, dans son ensemble, ne l'avait pas fait. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que votre gouvernement fait preuve de moins d'arrogance, plus d'humanité, vis-à-vis, pas des gilets jaunes, mais des Français? C'est un grief qui a été largement exprimé. Et c'est vrai qu'au regard, par exemple, de la réforme que vous annoncez, celle des retraites à venir, on a l'impression finalement que le dialogue, ce n'est pas encore l'essence même de ce gouvernement.
Je crois que je vais vous donner un exemple concret de ce que ça a changé dans mon domaine. On a beaucoup de règles nationales ou de droits. On ouvre énormément de droits depuis 2 ans à la formation, au conseil à l'évolution professionnelle. On a libéré l'apprentissage. En revanche, prendre de façon beaucoup plus précise la dimension territoriale en question. Quand on est à Carré, en ce moment, c'est connu pour les vieilles charrues. J'y étais l'autre jour, mais en dehors du festival qui est formidable, superbe festival, en dehors de ce moment-là, il y a très peu de transports en commun. J'étais à la mission locale, les jeunes, ils arrivent en gare étage jeune, il y en a, ils font 1 heure de stop pour y arriver. Donc ça, c'est pas le même problème que Gentilly ou Strasbourg. Et donc ça, cette dimension rurale territoriale, je pense que tout le gouvernement, on la prend beaucoup plus en compte. Et évidemment, il faut le faire avec les partenaires, avec les élus locaux, avec les partenaires sociaux,
donc,
avec les associations.
Donc ce mouvement aura finalement été utile aussi pour que vous preniez, si vous me dites, en
on
compte les territoires.
On n'est pas.
Vous apprenez en marchant, c'est peut-être le cas.
On reconnaît qu'on apprend.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Muriel Pénicaud. Alors durant cette émission, vous avez cité l'exemple d'une personne que vous connaissez qui est caissière et qui, d'après vous, n'a pas pour ambition de le rester toute sa vie. Eh bien cette phrase a été retenue par les internautes qui l'ont très mal perçue sur les réseaux sociaux. Je vous donne quelques exemples. Pour Judy, votre discours est méprisant. Et Nicole, elle tient à vous rappeler qu'il existe des caissières qui aiment leur métier, tout simplement. Donc qu'est-ce que vous leur répondez ?
D'abord, moi, je vais sur le terrain tout le temps. Un, je ne méprise personne. Deux, je me bats. Je suis ministre du Travail que pour ça. Pour aider nos concitoyens à avoir un avenir meilleur
Est-ce
à travers le travail.
Est-ce que vous comprenez qu'il est mal perçu ?
Je suis étonnée, parce que je pense que ce que je voulais dire, c'est que moi, je souhaite que personne ne soit enfermé à vie dans quelque chose qu'il ne veut pas faire. C'est pour ça qu'on a créé aussi ce droit à la formation. Qu'on puisse, dans sa vie, si on n'a pas choisi son métier, il y en a qui le choisissent, et c'est très bien. Et à ce moment-là, il faut qu'ils puissent gagner mieux leur vie, parce que j'en reviens à l'égalité salariale. Et puis, si on n'a pas choisi, il faut qu'on puisse changer, qu'on puisse bifurquer. C'est ça que je veux dire, et ça, je le redis. Et d'ailleurs, c'est un peu comme les Bleus. Les Bleus, c'est formidable,
alors justement,
mais
on y
il
vient.
Faut parler aussi de leur salaire.
Justement, des footballeuses.
Exactement. Alors, vendredi, le journal L'Équipe a dévoilé les salaires mensuels des footballeuses et ils ont constaté que Neymar gagne en 3 semaines l'équivalent d'1 an de salaire de la totalité des 23 joueuses de l'équipe de football de France. Et donc Alexandre, lui, par contre, il trouve que le football féminin, c'est un marché qui est en train de s'agrandir, et donc c'est pour ça que les salaires ne suivent pas. Est-ce que vous, vous trouvez que c'est indécent ?
Alors, je pense que clairement, on peut pas en rester là. On se bat pas tout le gouvernement pour l'égalité salariale homme-femme pour se dire qu'il y a pas de sujet quand on est footballeuse. C'est pas exactement le sujet de l'égalité salariale, mais c'est la capacité à gagner aussi bien sa vie si on apporte autant de valeur. Alors, il y a deux.
Sauf que là, en effet,
ah ben là, on est pas
les footballeuses. Non, mais les footballeuses, c'est pas le même marché visionnage. C'est la vérité. Est-ce que vous dites, voilà.
Moi, je dis deux choses. Premièrement, ça change parce que, je m'excuse, tous les stades sont pleins là. 10 millions de vues. J'espère qu'on sera encore plus de 10 millions ce soir parce que ça devrait être un très beau match. Il y avait 10 millions de personnes, donc c'est pas vrai, ça a augmenté les recettes. D'ailleurs, les taux de publicité ont augmenté depuis.
Est-ce que vous demandez au patron
la création de valeur
de footballeuses, justement, de revoir leur échelle de
salaire ? J'ai deux choses. D'abord, la création de valeur, elle est en train d'arriver, il faut la répercuter. Et deuxièmement, il faut investir. Parce que je m'excuse, quand il y a des footballeuses à ce niveau-là, et je ne dis, vous imaginez pour les autres, qui sont encore obligées d'avoir un autre métier pour pouvoir vivre. Parce qu'il y a une architecte, il y a quelqu'un qui est dans le social, etc. Il y en a 4 ou 5 qui doivent travailler en plus. Quand vous avez votre journée de travail dans les bottes, si j'ose dire, voilà, pour l'entraînement, c'est quand même pas pareil. Hein. Et donc, je trouve que les résultats qu'elles font, qui sont exceptionnels, en sachant qu'il y en a beaucoup qui ne sont même pas à temps plein.
Alors,
je dis un coup de chapeau, mais je dis que ça, il faut investir dans le futur.
Mais pour l'instant, vous ne dites pas qu'il faut une égalité salariale avec les hommes.
J'étais à Lyon vendredi.
Non, mais concrètement,
un truc qui s'appelle sport dans la ville, garçons et les filles, à partir de 7
Pénico.
Ans. Eh bien, il faut, répertuer la création de valeur, et deux, si on veut créer de la valeur, raisonnons business. Mm-hmm. Il faut investir pour créer de la valeur. Investir, c'est permettre aux femmes, aux joueuses, de pouvoir vivre. Aux joueuses à un certain niveau, de pouvoir vivre de leur travail de footeuse.
Et vous êtes en bleu, je signale aux auditeurs, quel est votre pronostic pour ce soir, le match Brésil-France France-Brésil. Allez, risquez-vous, Marie-Pierre, avoir une dernière question.
Allez, 2-1 pour nous, parce que quand même...
2-1 pour la France. Dernière question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors ça concerne un professeur d'histoire géo qui vous interpelle régulièrement sur votre compte Twitter, et il recense tous les accidents graves du travail et les morts aussi liées au travail. Ce compte, vous devez le connaître, il s'appelle Accident du travail, silence des ouvriers meurent, et il est suivi par plus de 12 700 abonnés. Pourquoi vous ne lui avez jamais répondu ?
Ah, je réponds jamais sur Twitter aux uns aux autres.
Jamais contacté à tout court.
Mais par contre, sur ce sujet-là, oui, aujourd'hui, il y a 488 000 accidents du travail par an en France. Et le chiffre ne baisse pas. Pour moi, on fait beaucoup d'indemnisation après, on fait très peu de prévention. Et c'est un de nos combats à venir. On l'a commencé avec les partenaires sociaux sur la santé au travail, la prévention.
Est-ce que vous allez le recevoir au ministère, ce professeur d'histoire géo, pour évoquer tous ces cas ? Ça peut être utile en même temps d'avoir un retour.
Il y a un comité sur ce sujet-là que je préside régulièrement. Je vois plein de gens sur ce sujet-là.
Mais pas forcément ce professeur d'histoire qui a l'air visiblement bien informé.
Je vois tous ceux qui travaillent dessus tous les jours.
Merci.
Attentivement.
Muriel Pénico, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.